Bonsoir, deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit du plaidoyer des États-Unis d'Amérique pour le strict respect de la constitution congolaise dans l'organisation des élections transparentes et équilibrées en 2016. Déclaration de l'envoyé spécial de Washington dans la région des Grands Lacs et en RDC. Comme deuxième sujet, nous parlerons du bilan du gouvernement Matata Ponyo. Le premier ministre congolais estime que l'action de son gouvernement en 2013 a été positive. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Marcel Ngoy, il est éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoy.
Bonsoir Sam Kachak.
Nous sommes également avec Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît également à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Ouais, bonsoir mon frère.
Et nous sommes avec Baba Isaac Kalongi, journaliste indépendant. Il intervient depuis Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Bonsoir Baba Isaac Kalongi.
Bonjour, estimés confrères.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le plaidoyer des États-Unis pour le strict respect de la constitution congolaise dans l'organisation des élections transparentes et équilibrées en 2016 et le bilan de l'action du gouvernement Matata Ponyo en 2013 ont occupé une large place dans les colonnes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la déclaration de l'envoyé spécial de Washington dans les Grands Lacs et en RDC qui a affirmé que les États-Unis d'Amérique plaident pour le strict respect de la constitution congolaise dans l'organisation des élections transparentes et équilibrées en 2016. Russ Feingold a précisé que son pays encourageait les présidents africains à respecter leur mandat constitutionnel, à lire sur www.radiocapi.net. Forum des As revient aussi sur la visite de l'envoyé spécial des États-Unis, volet sécuritaire, face à ce plus que probable retour à la Zoro du M23, relève le tabloïd. Des voix s'élèvent pour mettre en garde ces textes au mouvement rebelle, dont celle de Washington par l'entremise de son envoyé spécial dans le Grand Lac, Russ Feingold, qui a martelé son opposition à toute tentative des réorganisations du M23. Changeons de chapitre pour parler de la conférence de presse organisée le week-end dernier par le Premier ministre. Conférence au cours de laquelle Matata Ponyo a dressé un bilan positif de l'action de son gouvernement en 2013. Le quotidien du groupe L'Avenir titre à la une sous le leadership de Joseph Kabila. Enfin, le rêve de Mzé Laurent-Désiré Kabila se réalise. Sans le FMI et la Banque mondiale, la RDC réalise des performances. Le journal Le Phare relève aussi qu'avec les performances macroéconomiques de 2013, la prophétie de Mzé se réalise. La manchette de la Référence Plus aborde aussi dans le même sens, sous le leadership de Joseph Kabila Kabangé, la prophétie de Mzé se réalise. D'après la consoeur, le pays se place comme le top one en Afrique. Le quotidien Forum des As n'est pas en reste et précise qu'à l'occasion de sa première conférence de presse de 2014, Matata Ponyo étale les performances en rapport avec la stabilité macroéconomique et égrène les réalisations sur le front du social.
Merci Kéline Kouté. Marcel Ngoy, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine était aussi marquée par l'inhumation des victimes de l'explosion du dépôt d'armes de la 5e région militaire survenue vendredi dernier à Mbujimayi au Kasaï oriental. On a déploré plusieurs morts et des blessés. Un petit commentaire par rapport à ce drame.
Drame, c'est d'abord un sentiment de tristesse, de consternation que je partage avec les familles des victimes de ces explosions ou de cette explosion qui à jamais rappellera cette histoire de manque de précaution face à la garde de matériel et munitions militaires. Donc nous avons là une situation qui appelle les autorités à un peu plus de vigilance parce qu'il faudra peut-être étudier comment chaque fois constituer des dépôts en dehors de soit de la ville ou alors enlever ou désengorger certaines les alentours de là où il y a des dépôts d'armes, parce que cette explosion, ce n'est pas la première. Vous connaissez ce qui s'est passé l'autre fois à Brazzaville.
En Pila,
oui. Donc, on a connu une explosion qui a beaucoup tué. Et donc, on doit en tirer quelques leçons pour que, à l'avenir, ce type d'affaires ne subviennent plus. Il ne suffit pas seulement de construire des dépôts et de garder le matériel. Il faut voir tout autour la question de l'environnement et les conséquences que cela peut avoir sur les populations. Et le drame vécu en Boujmaï en est un. Il faudra éviter qu'on en ait d'autres dans les mêmes circonstances.
Marcin, je vous garde encore dans cette émission. Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît également à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi dominée par les attaques des Bakata Katanga, causant plusieurs dégâts matériels et des déplacements de milliers de personnes à Mitoaba, à Manono, à Pweto, à Malimbankulu ou Katanga. Un petit commentaire, bien sûr, aussi.
Ben, vous savez, le cas de Bakata Katanga, c'est un cas qui étonne plus d'une personne. On connaît des rébellions, on connaît des Maïmaï, mais généralement, les Maïmaï qu'on a connu au Nord Kivu ont eu, tout comme les Maïmaï qu'on avait connu au Nord Katanga, avec comme revendication, c'était la présence des étrangers. Ils voulaient protéger les territoires nationaux contre les étrangers, donc précisément les Rwandais, les Ougandais, le Burundi qui nous avaient attaqués à l'époque. Les Bakata Katanga, peut-être comme le disent leur nom, c'est une question de la sécession, cher ami. On ne peut pas chercher. On ne peut pas faire la sécession avec ces gens, avec ce genre d'armes. Mais je pense que il y a bien une distraction qui voudrait bien empêcher le Congo d'aller de l'avant.
Marcin, quand je reviens à vous, l'autre actualité cette semaine, c'est le rapport des experts des Nations Unies qui fait état d'une réorganisation du M23. Un petit commentaire aussi.
Ce rapport-là était un rapport intéressant, qui a fait l'objet de la une, la prospérité parue hier. Je peux dire que dans ces rapports, il y a à manger à boire. Il y a une sorte de redistribution des cartes au niveau de la région, au niveau des pays impliqués dans tout ce qui se passe dans l'Est. Dans ces rapports, il est demandé notamment à l'Ouganda et au Rwanda d'extrader les dirigeants du M23 recherchés dans le cadre de mandats qui ont été émis, le mandat international émis contre eux. Et dans ces rapports également, il y a des dispositions importantes qui sont demandées à la République démocratique du Congo quant à la poursuite qu'il faut engager contre certains rebelles et tout ça. Et il y a même des dispositions qui concernent la CIRGL, l'Union africaine et tout ça. C'est un rapport volumineux qui demande, qui a sorti des recommandations pertinentes qu'il faudrait que les autorités examinent la faisabilité pour que, plus que jamais, que ce qui est demandé là, en termes de conseils, d'experts, parce qu'en fait, faut pas qu'on, le groupe d'experts ne se substitue pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le groupe d'experts a travaillé sur le dossier, fourni des éléments, c'est au Conseil de sécurité de décider en dernier ressort.
Joachim Diana, peut-on craindre le pire dans les prochains jours avec la publication de ce nouveau rapport des experts des Nations Unies, puisque le 23 a été défait, mais aujourd'hui on a tendance à croire qu'il s'est réorganisé quelque part.
Bon, mais écoutez, moi je réfléchis souvent comme le patriarche Hérodia qui disait que généralement tous ces gens-là, les Occidentaux, n'ont parfois même pas besoin de ce rapport-là, parce que à partir de leurs satellites et consorts, ils sont capables de voir ce qui se passe sous la table de Mugabe et ce qui se passe devant la porte de Kadhafi à l'époque. Ils connaissent très bien la présence des Rwandais au Congo. Ils le savent très bien. Et un pays comme les États-Unis d'Amérique a des experts au Rwanda. Et on sait que ce qui se passe. Ce rapport, c'est un rapport en de plus. Mais tout ce que les Congolais attendent, c'est qu'on passe le premier rapport des premiers experts. Il n'y a jamais eu de sanctions. Et ce rapport, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement la communauté internationale soit conséquente. Si le Congo avait fait ça, si Mugabe avait fait ça, ben, il y aurait déjà des sanctions.
Baba Isaac, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et vous intervenez depuis Mbujimayi en province du Kasaï oriental. Quels sont les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine dans votre province?
Je suis endeuillé moi-même puis la situation qui s'est produite chez nous, telle que tous ceux qui n'avaient pas l'idée sur ce qui s'est fait à l'est du pays ont compris qu'il ne faut jamais souhaiter la guerre. Parce que il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme dans des conditions et circonstances compliquées. Parce que il y a eu une poudrière qui n'a pas été mise à l'abri de tout contact avec le feu. Qui l'ont fait? Pourquoi l'ont-ils fait? Ce sont des questions auxquelles vous, avec vos confrères qui sont dans le studio là-bas, vous pouvez répondre. Maintenant que nous avons connu ce calvaire, maintenant qu'il y a eu mort d'homme, a-t-on prévu des conditions de sécuriser la population restante? A-t-on enterré les armes? Les a-t-on placées dans une cave pour éviter que prochainement l'explosion ne se reproduise. Je ne sais pas, parce que vous n'avez pas l'idée de ce qui a été fait et ce qui s'est produit. C'est ainsi que j'ai dit que l'actualité, même tout ce que vous dites là, concernant les Nations Unies, concernant Rwanda et Ouganda, ça ne me préoccupe pas, parce que j'ai eu un deuil, à la grande place, on a enterré les morts, et on en a marre avec pareille situation, si l'État ne peut pas prendre des dispositions pour éviter que des cas pareils ne puissent se reproduire en plein centre-ville. Une poudrière, pour ceux qui connaissent l'académie militaire, une poudrière ne peut pas être mise à la disposition du public en plein air. On ne peut pas l'installer là où le feu peut provoquer une explosion. On ne peut pas connecter la maison où il y a les armes avec le courant électrique. On doit mettre les paratonnerres, on doit éviter tout ce qui peut entraîner l'explosion, parce que les armes qui étaient stockées là-bas, vous n'en avez pas l'idée au studio de Rokapi où vous êtes. Et ce sont des projectiles qui sont partis sur 40-50 kilomètres pour aller tuer les hommes. Donc, moi, je ne peux pas avoir une autre actualité en dehors de celle-là.
Merci beaucoup, Baba Isaac. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Les États-Unis d'Amérique plaident pour le strict respect de la constitution congolaise dans l'organisation des élections transparentes et équilibrées d'ici à 2016. Déclaration de l'envoyé spécial dans la région des Grands Lacs et en RDC dans une conférence de presse à Kinshasa. Russ Feingold a notamment abordé des questions sur le processus de stabilisation de la RDC, le gouvernement et la loi sur l'amnistie. Michel Kifindangoy.
En rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'envoyé spécial des États-Unis affirme s'opposer à toute tentative de réorganisation du M23 dans certains pays voisins à la RDC. Russ Feingold.
Nous essaierons de voir de près s'il y a quelques preuves que ce soit concernant le M23 s'il essaye de recruter de nouveaux membres. Et nous appuyons les remarques de Martin Colbert qui avait déclaré notamment que toute tentative du M23 de se réorganiser recevra une réponse ferme adéquate.
Le sénateur américain exige par ailleurs le désarmement de tous les groupes armés, y compris le FDLR. Au sujet de la loi d'amnistie en cours d'examen au Parlement, Russ Feingold estime que cette amnistie ne devrait pas seulement être appliquée aux personnes impliquées dans des groupes armés. Préoccupé par la question de gouvernance, les sénateurs américains plaident pour l'organisation des élections libres, transparentes et équilibrées d'ici 2016.
Les élections, bien sûr, de 2011 étaient assez sérieusement viciées et ne répondaient pas aux normes d'élections transparentes et équitables. J'ai toujours encouragé vivement les présidents africains afin qu'ils respectent les mandats qui leur ont été assignés. La loi fondamentale, bien sûr, se portera mieux si elle n'est pas modifiée pour qu'un troisième mandat puisse être accordé.
Pour Russ Feingold, les États-Unis soutiennent le respect de la constitution actuelle de la RDC dans l'organisation des prochaines élections.
Marcin Goyer, quelle analyse vous faites de cette déclaration de l'émissaire américain?
Une déclaration que je prends à sa juste valeur, dans la mesure où dans ce pays, comme dans la plupart des pays africains, la question du respect de constitution et plus particulièrement du respect des mandats et revient toujours sur toutes les lèvres. Et je crois que si les États-Unis, à travers son envoyé spécial dans la région de Grand Lac, essayent de sauter sur l'occasion pour soulever cette même problématique, il y a lieu de s'y attarder. Mais surtout, de voir pourquoi en ce moment-ci. Pourquoi c'est seulement maintenant que lui soulève cette question? Est-ce que aujourd'hui on n'a pas d'urgence pour qu'on puisse prendre des problèmes de 2016 et les traiter aujourd'hui en 2014 en toute urgence? Donc c'est tout ça le problème. Moi je crois que nous avons aujourd'hui la question de la guerre, nous avons beaucoup d'autres sujets. Monsieur l'abbé Malumalu est passé hier devant les députés pour y présenter la feuille de route, c'est-à-dire de différents scénarios. Concernant l'organisation du processus électoral, faut-il commencer par les élections locales ou commencer par achever le cycle électoral de 2011, par exemple en finalisant avec l'élection de députés provinciaux pour renouveler un peu plus juste après le Sénat et le gouverneur de province. Voilà, donc le président Lasseni est sur le dossier. Et au moment où nous parlons, il a annoncé que d'ici là, il va, dès que la feuille de route est adoptée, après examen et toute sa discussion, il pourrait maintenant voir dans quelle mesure publier un calendrier. Alors, est-ce qu'il y a un problème pour qu'aujourd'hui, qu'on s'inquiète pour 2016? Je ne vois pas encore à quel niveau se situe le problème. Dès lors que, hier, Malumalu a commencé à présenter une feuille de route, il se prépare à présenter un calendrier, il appartient aux législateurs que le Parlement est de pouvoir donner les grandes orientations à l'abbé Malumalu, parce que c'est lui qui est là, jusqu'à preuve du contraire. En même temps, hier, j'ai vu Maluma Lucé dire qu'il était fier de présenter ce dossier devant l'autorité budgétaire qu'est le Parlement, de l'Assemblée nationale, en même temps, pouvoir presque, comprendre législateur en la matière. Alors, on ne peut pas, à ce stade, anticiper. Moi, je pense qu'il faut que Maluma Lucé et le Parlement nous disent ce qu'il faut faire. Et par la suite, on va voir comment discuter sur...
Je vous garde encore dans cette émission. Joachim Odiana, les États-Unis qui plaident pour l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles d'ici à 2016. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce qu'il y a des arrière-pensées par rapport ou derrière cette déclaration des États-Unis au sujet de l'RDC?
D'abord, pour que vous fassiez une plaidoirie, il faut qu'il y ait une plainte. La question que moi je me pose, quelle est la plainte qui a motivé cette plaidoirie de l'Amérique? Mais il faut, ceci dit, il faut... j'ai entendu aussi, il a dit que les élections de 2011 étaient vicieuses. D'accord, mais il n'oublie pas. Ce sont les mêmes plaidoiries. Vous devez à tout prix organiser les élections. On a poussé la CENI de 2011 à organiser les élections en 8 mois, avec tout ce qu'il y a eu comme précipitation, et on en est arrivé. Et voilà, on reprend la même chose. C'est comme si vous lâchiez quelqu'un en plein air sur une parachute. Vous ne vous souciez pas du mauvais temps qu'il va rencontrer, quitte à ce qu'il puisse se craser ou fasse quoi. Et puis après, vous allez vous plaindre, il s'est jeté. Mais vous oubliez que c'est vous qui l'avez projeté. On avait obligé, par tous les moyens, il faut que le 6 décembre, qu'on connaisse le président de la République. On y est allé précipitamment, et on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On a cassé des œufs, et aussi on se plaint qu'il y a eu des œufs cassés. Bon, mais aujourd'hui encore, le confrère vient de le rappeler, tout est fait. Personne n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas des élections en 2016. Mais il y a de vrais problèmes que la CENI a fait remarquer. Si on veut organiser les élections, voici les scénarios qu'il faut suivre. Et ce schéma-là, si on ne le suit pas, et surtout le premier schéma, il faut qu'il y ait l'argent, il faut que les partenaires, et j'ai aussi appris en suivant le président de la CENI, ils se sont engagés et ils attendent encore pour dire combien ils vont apporter. Mais vous attendez ce que vous allez apporter, mais vous voulez que par tous les moyens on organise. Mais on organise les élections. Et monsieur Labbé dit, lui, pour faire le calendrier, il doit avoir tous les paramètres entre les mains. L'argent, tout ceci. Si tout est OK, il fait son pas. Mais qu'on lui donne l'argent, qu'on lui donne tous les moyens. Personne n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'élections.
Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec cette position de l'émissaire américain?
Moi, je pense que c'est une... Je n'aime pas la langue de bois. Il se base sur les gesticulations d'une certaine opposition qui, je l'ai toujours dit, l'opposition de ramassage et de la cueillette, qui n'invente rien, qui parfois tombe sur les ragots pour être présent dans les médias et ils racontent des histoires. Et eux, de pays-là, prennent ça au sérieux et ils commencent à faire des plaidoiries parce qu'il y aurait tentative de ceci, de cela, alors qu'il n'y a absolument rien du tout.
Baba Isaac, Joachim Diana et Marcel Ngoï, d'une façon ou d'une autre, rejettent en fait cette position des émissaires américains. Et dans l'opinion congolaise, on se demande même, est-ce qu'avec cette déclaration des émissaires américains, est-ce que les États-Unis veulent s'ériger en donneur de leçons ou en gendarme au monde, foulant même au pied la souveraineté de la RDC et le principe de la non-ingérence dans les affaires d'un État souverain? Bien sûr, ce sont des questions qui se pose dans l'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Mais je suis étonné de voir un étranger donner les instructions pour le respect de la Constitution. Je suis peiné de le voir. Parce que la Constitution, c'est un texte qui régit les Congolais. Quand un étranger plaide pour le respect de la Constitution, que trouve-t-il dans les gouvernants? C'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a une flagrance, il y a une violation régulière du texte fondamental qui nous régit. Ça, c'est un. Deuxièmement, organiser les élections présentement, il y a des préalables sécuritaires, des préalables financiers et des préalables sociopolitiques, constitutionnels également. Et l'Américain demande qu'on respecte la Constitution, c'est-à-dire concernant le recensement, la date de la tenue des élections locales, urbaines, provinciales et même nationales. Mais tout à fait d'accord, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le chef de l'État congolais l'avait déclaré lui-même au lendemain de la publication des résultats par la Cour suprême. Il avait dit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est le chef de l'entité Congo qui avait déclaré. Il y avait eu beaucoup d'erreurs, mais on maintient la publication comme elle a été faite, mais qu'on protège l'avenir, qu'on sache faire mieux à l'avenir. C'est ainsi que l'Américain se met dans le même cadre pour dire « Organisons maintenant les élections en respectant la Constitution, en respectant les normes du point de vue recensement, par exemple, du point de vue identification des électeurs. » Mais tout à fait normal. Mais mon problème, c'est que le même Américain qui propose ça soutient une chose et son contraire à la fois. Parce que quand on n'avait pas respecté la Constitution en 2011 ou en 2006, ils auraient dû ne pas répéter la même erreur en 2011. Et maintenant qu'ils exigent qu'on respecte scrupuleusement la Constitution pour les élections de 2016, mettons-nous d'accord avec eux parce que les préalables financiers se posent et nous n'aurons pas l'argent pour organiser les élections sans recourir à eux. C'est aussi ça. En ce moment-là, ils vont nous voir crédibles et nous pouvons passer l'opération sans problème en 2016. Mais présentement, vous savez ce qui se passe. Les préalables sécuritaires sont là. Vous parlez de FDLR, de Katakatanga et de M23 qui se repositionnent. Mais vous voulez seulement tenir aux élections sans que ces forces ne soient totalement neutralisées. C'est quel genre d'élection vous allez faire? C'est ça ma préoccupation. Moi, je ne vois pas comment on peut organiser des élections crédibles et équilibrées avec la présence des forces négatives sur le terrain, avec la présence des étrangers qui sont en train de violer l'intégrité territoriale et même la souveraineté. Et vous tenez absolument à organiser des élections. Mais c'est de la même manière. Nous n'aurons pas résolu le problème. C'est ça mon avis.
Marcel Ngoï, Baba Isaac vient d'énumérer un certain nombre des préalables pour l'organisation des prochaines élections, entre autres les préalables sécuritaires et autres. Un petit commentaire par rapport à cela et que faut-il pour mieux organiser les élections de 2016?
Oui, mais en dehors même des préalables, les préalables, il y en a, ils sont multiples. Vous avez cité ce que vous avez cité, mais il y a plus que ça. Nous sommes à l'étape actuelle. Nous avions assisté hier à un débat autour du schéma. Quel est le schéma qu'il faut adopter? Monsieur l'abbé Malumalu, président de la CENI, propose pour cette année 2014 qu'on commence par les élections locales. J'ai suivi un député au cours du débat hier, un député de la majorité, Christophe Lutundula, qui lui propose le contraire en disant pourquoi aller provoquer ou commencer les élections local, alors qu'il y a le cycle électoral de 2011 qui est resté, ne serait-ce qu'inachevé, s'il faut équilibrer avec le cycle électoral de 2006. En 2006, pour rappel, on avait organisé les élections législatives et présidentielles, on avait organisé les élections provinciales et on avait organisé les élections des sénateurs et de gouverneurs de province. Mais pourquoi on ne peut pas, ne fût-ce que pour consolider le processus, rester ne fût-ce que pour consolider ça en organisant la même chose pour 2011. Ce qui n'a pas eu lieu en 2011, cela n'a pas eu lieu en 2011 parce qu'on a fait seulement les législatives et la présidentielle. Il restait les élections des sénateurs et des gouverneurs de province plus les élections provinciales. Alors, Lutundula a dit, par exemple, que pourquoi on ne peut pas achever ce cycle-là au lieu de commencer aujourd'hui avec les élections locales parce que si on choisit aujourd'hui les gens au niveau local, c'est pour quelle législature et pour combien de temps? Parce que normalement les mandats, c'est 5 ans. Si on vous est élu aujourd'hui au niveau local, alors c'est pour combien de temps que vous allez exercer ces mandats-là pour si il faut respecter la Constitution? Il y a eu beaucoup un débat houleux autour de la question. Avant même qu'on examine les préalables, il y a la question du schéma. D'où la nécessité pour les parlements, parce que hier les députés ont été placés devant leurs responsabilités, de pouvoir examiner. Je souligne en passant qu'il y a les députés de l'opposition qui ont claqué la porte. Parce que lorsqu'ils ont vu Malumalu amener cette feuille de route, et lorsque José Makila a soulevé la problématique de quelques élections dont certains présenteurs observés dans ce qu'il a appelé les nominations fantaisistes au niveau de la CENI, il s'est posé un problème. Les députés de l'opposition sont sortis. De la même
c'est
manière.
C'est pas bon signe alors.
De la même manière, il y a des groupes d'opposants qui participaient à la commission
PAJ,
commission mixte, PAJ défense, qui examinait la loi sur l'amnistie. Et c'est les députés qui étaient là de l'opposition ont claqué la porte. Donc, les préalables sont multiples. Elles peuvent commencer par être politiques. La guerre, je vous l'ai toujours dit ici, ce n'est pas le fait seulement des troubles. La guerre, c'est pas l'absence, c'est pas le fait, la paix, c'est pas quand vous avez ou absence de guerre, non. Moi, je considère que quand les problèmes sont politiques, il faut d'abord politiquement résoudre beaucoup de problèmes avant même d'aller voir les problèmes d'argent. Merci. Les concertations nationales ont balisé le chemin. Jusqu'aujourd'hui, 689 résolutions de concertation nationale n'ont jamais été appliquées. On ira aux élections en ordre dispersé avec une cohésion nationale. Mise à mal.
Merci Marcel Ngoy. Joachim Diana, afin d'apaiser les esprits et rassurer toutes les parties, que faut-il pour mieux organiser les élections de 2016 de façon transparente et libre?
Je pense que la seule chose pour que les élections soient transparentes, c'est que les gens soient de bonne foi. Qu'ils soient de bonne foi, mais je constate que malheureusement, on a une opposition de mauvaise foi. Je vais le démontrer.
Pourquoi?
Par deux petits faits. Et je crois que l'abbé Malmalo l'a démontré. La même opposition a participé à la révision de la loi fondamentale. Et je pense que c'est elle qui a proposé que désormais, on ne puisse plus déterminer les circonscriptions sur base des électeurs enrôlés, mais que ce soit sur base du poids démographique. Ce qui veut dire qu'avant les élections, il faut qu'il y ait le recensement. C'est le recensement qui détermine le poids démographique. Et maintenant, lorsqu'on dit qu'on va commencer le recensement, on veut commencer le recensement, c'est une façon de retarder les élections. La même opposition. Et j'apprends aujourd'hui, lorsque même tout le monde s'est rallié au point de vue de Lutundula, lorsqu'il dit qu'on commence d'abord par ce qui était resté. On met dans la tête du Congolais qu'en 2011, il n'était resté que les provinciales et les sénatoriales. Mais les locales aussi étaient prévues. Qu'ils le prennent le candidat. Tout était prévu, le cycle était complet. Personne n'avait jamais dit qu'en 2011, nous n'aurons que le législatif, la présidentielle et le provincial. Non, tout était prévu, mais tout n'a pas eu lieu. Et maintenant, lorsqu'on leur propose un schéma qui puisse permettre à ce qu'on puisse arriver à faire toutes les élections et qu'en 2016, on soit en mesure d'organiser des élections, l'opposition sort de la salle. Parce que son problème, c'est qu'il y ait des problèmes et qu'on court dans les ambassades et que demain, lorsque les ambassades font appel au gouvernement, il faut ceci, ça leur fait plaisir, un plaisir ambigu. Alors que si ces gens-là étaient de vrais patriotes, tout ce qu'ils disent, c'est réfléchir calmement pour voir ce schéma que M. Labbé nous propose. Mais je pense que c'est le schéma qui peut permettre à ce qu'on termine toutes les élections, et au niveau de la base, et au niveau provincial, et aussi au niveau présidentiel. Et que sera en 2016, effectivement, qu'il y ait élection.
Baba Isaac, plusieurs schémas sont proposés pour l'organisation des élections en 2016. Selon vous, quel pourrait être le meilleur schéma et que faut-il pour mieux organiser ces élections de façon transparente et équilibrée en 2016?
Mon cher confrère, je suis peiné d'entendre mes confrères se battre pour un problème qui ne les concerne pas, mais qui concerne l'opinion nationale et internationale. Les élections de 2011 ont été organisées au niveau provincial et présidentiel. Maintenant, le Sénat qui est en place là-bas a dépassé largement les limites de son mandat. Les provinces, la même chose. Bon, va-t-on faire un Sénat de 10 ans de mandat et va-t-on faire les assemblées provinciales de 10 ans de mandat dans un pays où la Constitution, selon notre ami américain, il demande qu'on respecte scrupuleusement la Constitution, mais nous allons avoir des députés provinciaux qui font 10 ans de mandat, en respectant quelle Constitution? C'est ça ma préoccupation. Le schéma qu'on peut proposer, c'est commencer d'abord par le recensement général, pour connaître le poids démographique de chaque entité, de sorte que, quand on va tenir compte de ce poids démographique, on pourra voter massivement et donner le mandat à quiconque voudra être notre représentant auprès des institutions législatives. Mais la confusion, c'est laquelle? Présentement, il y a des députés provinciaux qui siègent. Et le Sénat, dirigé par l'honorable Ken Odondo, siège.
Mais il siège avec quel mandat et avec le respect de quelle constitution quand nous allons organiser rapidement les autres élections? Mais ça, c'est un monde à l'envers. Même ceux qui nous demandent de respecter la constitution nous regardent, nous traitent comme ils peuvent nous traiter. Moi, je suis peiné de voir que les amis là, qui sont avec vous, ne puissent pas faire un effort pour comprendre que maintenant nous sommes en face d'une situation à laquelle il faut donner solution absolument. Nous avons des députés provinciaux qui siègent. Nous avons le Sénat qui siège. Mais de l'ancienne législature, ils représentent qui maintenant? Parce qu'il faut respecter la Constitution, que ce n'est qu'à l'issue des élections prochaines que ceux-là peuvent partir. Mais ils auront totalisé 10 ans. Dans quelle Constitution c'est prévu comme ça?
Merci Baba Isaac. Nous passons directement à notre deuxième sujet de ce soir. Le Premier ministre congolais a présenté le bilan de son gouvernement de l'année 2013 et les perspectives 2014. Dans une conférence de presse animée samedi dernier à la primature, Augustin Matata Ponyo a qualifié de positif ce bilan. On l'écoute s'exprimer sur l'aspect économique au micro d'Innocent Olenga.
L'élément le plus important ou les références, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Dans l'histoire de notre pays, la RDC n'a réalisé une stabilité macroéconomique aussi permanente comme aujourd'hui. Autant l'environnement économique international était perturbé, autant l'environnement national était grévé par des perturbations à l'est du pays. Mais en dépit de tout cela, nous avons réalisé un taux d'inflation de 1%. Qui propulse la RDC dans les top 1 du continent africain. La RDC est le seul pays en Afrique qui aura réalisé les taux d'inflation de 1%. Et ceci depuis 1960. Comme vous le savez, depuis près de 4 ans aujourd'hui, notre taux d'échange tourne aux environs de 920-923 francs congolais les dollars.
On écoute à présent le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'exprimer sur l'aspect social au micro toujours d'Innocent Olenga.
Nous avons un programme de 1000 écoles que nous sommes en train de construire. Avant d'entrer dans la salle, j'ai posé la question au patron de l'enseignement primaire et secondaire. Il me disait ceci. 130 écoles ont été livrées. Moi-même, j'en ai été témoin pour quelques-unes ici à Kinshasa. En plus des écoles qui sont construites, le ministre nous dit qu'il y a 237 qui sont en cours de finition, donc qui seront livrables d'ici là. La santé. Le ministre de la Santé me disait tout à l'heure qu'il y a des équipements pour 135 centres de santé qui sont déjà disponibles, réception. Et nous sommes dans un programme de 1000 centres de santé et 300 hôpitaux dans l'ensemble de la République. Je voudrais aussi parler du secteur des transports. Je vois le ministre des Transports qui est là. Avant d'entrer ici, il me disait, il y a 70 bus nouveaux, pas d'occasion, qui vont accoster à Boma bientôt et qui vont propulser le stock actuel de bus à 300 bus. Pour votre mémoire, mesdames et messieurs la presse, le stock le plus élevé que Sotraz ait jamais atteint, c'était 300 bus. Du temps où la Gécamines produisait 1 milliard de dollars. Le ministre me disait, il y a 200 qui vont arriver encore d'ici avril. Donc on va être à 500 bus ici en avril. Et probablement avant la fin de l'année, à 1000 bus.
Marcel Ngoyi, comment est-ce que vous analysez le bilan que dresse le Premier ministre de son action?
Oui, Matata, moi j'ai participé à la conférence. Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi ouvrir une petite brèche pour dire à Baba Isaac que nous n'avons pas, nous, ici, dans ces studios, la prétention de nous substituer à l'opinion congolaise. Nous sommes ici en tant que chroniqueurs, en tant que journalistes, et donc nous basons nos analyses sur les faits d'actualité. Et en tant que journalistes, nous avons la possibilité de faire des projections aussi négatives que positives sur l'avenir de ce pays. C'est notre pays, à nous tous, Baba Isaac, et donc nous avons ces devoirs-là, d'avoir un minimum de circonspection lorsqu'il faut parler de confrères qui sont au studio ici de Radio Okapi. Nous avons du respect pour vous, monsieur Baba Isaac. Nous avons aussi du respect pour l'opinion congolaise. Je passe à l'analyse.
Merci
Samuel Kachak. Concernant l'action du gouvernement, moi j'apprécie les efforts qu'entreprend le Premier ministre. Parce que ce sont des efforts qui sont de nature à sortir le Congolais ou le peuple congolais de l'opprobre. Imaginez-vous que le pays est en rupture de coopération, de programmes avec le Fonds monétaire international, le pays tente de survivre. Mais au fond, cette survie du Congo s'est faite sur le dos du Congolais. Tracasseries policières, tracasseries administratives, saccage des étalages de petits commerçants. En tout cas, c'est un pays où, comme dans la capitale, les gens pleurent. La surtaxation, de taux, en fait, l'imposition qui, aujourd'hui, a des allures de décourager ceux qui viennent entreprendre quelque chose, investir au Congo. Et donc, il faudra qu'on ouvre l'œil et le bon de ce côté-là. C'est vrai qu'il parle de la stabilité macroéconomique. Il parle de beaucoup d'indicateurs qui, au plan international, donnent du crédit effectivement à ce pays. Mais il faudra que les efforts soient parallèlement conjugués pour que dans l'assiette du fonctionnaire, dans l'assiette de tant d'autres gagne-petit, qu'on retrouve les effets induits de cette stabilité macroéconomique. C'est vrai qu'il ne doit pas le faire par coup de baguette magique. Il entreprend des réformes qui, en principe, n'auraient pas pu se faire seulement dans une seule législature. Il y a longtemps que ce pays devait s'inscrire dans une vision des réformes, des réformes structurelles. Mais ces réformes les confinaient en 1, 2, 3 mois, alors que lui-même, le Premier ministre, son propre mandat est menacé, et il est entouré d'une équipe qui est aussi menacée, parce que étant en l'attente d'un gouvernement de cohésion nationale qui ne vient pas depuis plus de 3 mois, je crois que même l'état d'esprit dans lequel il fait ses bilans ne reflète pas forcément la profondeur de son âme. C'est-à-dire, il aurait pu bien le faire s'il était un homme qui avait un mandat bien précis, avec des objectifs qu'il va atteindre. Il le fait peut-être pour question de justifier la présence, mais le projection de 2014, il risque lui-même de ne pas le réaliser. D'où, quel crédit on peut apporter, on peut accorder aux perspectives qu'il a tracées, à moins qu'il trouve un successeur qui pourrait récupérer l'ensemble des perspectives qu'il a tracées pour la continuité.
Joachim Diane, nous sommes vraiment vers la fin de notre émission. Un petit commentaire, comment est-ce que vous analysez le bilan que dresse le Premier ministre de son action?
Ah non, mais vous savez que le Premier ministre me surprend parfois par la légèreté avec laquelle il traite certains dossiers, notamment ce qui concerne le social. Lorsque le Premier ministre parle de la construction des écoles comme étant une action sociale, ça m'étonne. La construction des écoles, mais ce sont des investissements publics. Même la construction des hôpitaux, ce sont des investissements publics. Les sociales, moi je pense qu'on devrait d'abord commencer à définir ce que c'est le social. Si construire les hôpitaux, c'est le social, c'est qu'il n'y aurait plus des gens qui se battraient pour le social dans des pays où les hôpitaux existent. Le social, c'est par exemple l'accès aux soins. Ça, c'est autre chose. Les hôpitaux peuvent être construits. Mais si les gens n'ont pas la possibilité d'aller vers ces hôpitaux-là, il n'y a pas de social. Lorsqu'on construit des écoles, et encore que aujourd'hui, construire les écoles devrait être accompagné, ça je le dis toujours, devrait être accompagné de la réforme de l'enseignement. Il ne faut pas que des écoles soient des tombeaux peints. Qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles-là? Tout le monde, nous sommes en contact avec les enfants qui sortent de là.
Donc on doit réformer l'enseignement.
On doit réformer l'enseignement. La construction de ça risque d'être de peindre les tombeaux alors qu'il y a des ossements pourris là-dedans, en dessous. Donc je pense que c'est plus important, la réforme de l'enseignement. Je préférerais un enfant qui étudie sous un arbre, mais qui reçoit de bonnes connaissances que celui qui est dans un beau bâtiment qui n'apprend absolument rien avec le culte de diplôme que nous avons. À propos de bus, le Premier ministre dit que nous aurons 300 bus, et c'est ça dans sa logique de pour la première fois. Mais lorsque vous vous interrogez sur qui est votre micro dans la rue, les gens constateraient que le bus Sotrans avait un plus grand impact que Nana Transco aujourd'hui. On ne le voit absolument pas. Nous sommes encore sous le règne de 207. On ne le voit pas. Soit que ce bus, effectivement, parce qu'il y a des gens même qui commencent à douter si effectivement il y en a 200, parce que l'organisation est telle qu'on ne sent pas. Nous avions des Sotrans. Nous allions à l'université avec le bus là, avec la carte pour aller à l'université. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Si on le fait pour que ça aille à l'université comme ça, sur la ligne, il y en aura. On arrivait à l'arrêt, on trouvait des bus alignés pour monter. Il y a des bus qui étaient très chauds parce qu'il est resté longtemps sans qu'il y ait. Mais aujourd'hui, ce sont les gens qui s'alignent pour prendre le bus. Mais la comparaison, et cette comparaison qu'il fait, elle est tout simplement propagandiste et elle n'est pas bonne. Nous voulons bien, c'est notre pays, et que les gens aillent en profondeur des choses. Nous ne sommes pas là. De même, lorsqu'il considère le cadre macroéconomique comme étant, il l'inscrivant dans son bilan, nous lui faisons gré de l'avoir maintenu. Mais ça fait, c'est depuis 2001 que le Congo se bat. Et c'est au même moment aussi, j'aimerais dire un mot sur la revue de presse qu'on avait entendue, où les gens ont dit la prophétie de Mouzé se réalise, parce que Mouzé n'avait jamais dit que nous non. Mouzé avait fait quelle prophétie? Que nous n'aurons plus de FMI. C'est fou. Mais c'est pourquoi j'ai dit cette propagande. Même lorsque vous voulez faire la propagande, il faut être intelligent pour savoir la faire. Mouzé a fait ça parce que le FMI lui avait refusé et il a travaillé avec. Il n'avait jamais fait la promesse que nous passerons de FMI. Et ce n'est pas parce que vous avez mal géré, on a coupé le programme et vous rembattez sur Mosée. Ça, c'est une mauvaise propagande.
Merci, Joachim Diane. Baba Isaac, vous venez de suivre Marcel Ngoï et Joachim Diane au sujet, en fait, du bilan dressé par le Premier ministre et de son action.
Estimés confrères, c'est révoltant. Révoltant dans le sens où moi, je ne peux pas parler du bilan d'un gouvernement qui n'a pas su drainer les investisseurs au Congo, et le pays a été aligné 87e après Somalie du point de vue ressources, du point de vue niveau de vie. Nous sommes PPTE, pays pauvre très endetté. Je ne comprends pas comment le Premier ministre, qui est économiste de son État, puisse dire que son bilan est positif. Et puis, vous êtes fort du principe selon lequel on ne change jamais l'équipe qui gagne. Le directeur technique de l'équipe Matata, c'est Joseph Kabila. Au soir des concertations, Joseph Kabila a décidé de la démission collective de l'équipe Matata. Si cette équipe avait gagné, Joseph Kabila ne pouvait pas la démettre. Et Matata Mponyo lui-même a pris un décret qui, selon lequel aucun ministre de son gouvernement ne peut engager le pays, soit en Afrique, soit au monde. Mais comment pouvez-vous considérer cette équipe-là comme une équipe qui a gagné le match? Ça, c'est un non-sens. Il faut que le Premier ministre soit sérieux et conséquent. Parce que Kabila, en changeant l'équipe-là au soir des concertations pour créer une équipe de cohésion nationale, c'est-à-dire que celle qui était en place avait échoué à sa mission. Kabila ne peut pas changer une équipe qui gagne. Alors, comment peut-on dire que le bilan était positif et les autres personnes, peut-être myopes, soutiennent ce plan en disant que l'équipe Matata a réussi? Nulle part au monde, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, toute la population n'a pas d'emploi. Vous savez que je vis dans une province où 97% sont des chômeurs, mais Matata peut prétendre dire que son équipe a gagné. Ça, c'est un monde à l'envers.
Baba Isaac, nous sommes à la fin de l'émission, je vais vous demander de conclure.
Non, je sais que notre envoyé spécial des Nations Unies a déclaré préoccupe tout le monde. Je suis fier de ces déclarations, à moins qu'ils ne soutiennent pas une chose de son contraire. Et pour le bilan de Matata Mponyo, je déclare le bilan fortement négatif, sauf le domaine monétaire où on a observé la bagarre menée contre l'inflation. Et nous avons respecté la hauteur des dollars par rapport au franc congolais. C'est la seule victoire de Matata Mponyo. Je suis honnête.
Marcel Ngoï, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez suivi les deux thèmes de notre émission de ce soir. Une petite conclusion.
Oui, je crois que le Congo est à la croisée des chemins. Entre la sortie d'une guerre fratricide, d'une guerre importée de l'extérieur, entre le soubresaut aujourd'hui qui sont à travers, qu'on peut lire à travers les cogitations politiques. Nous pensons que pour mieux sortir de cette situation, il ne faut pas être sorcier. Il faut plutôt être visionnaire. Nous avons ici l'occasion pour le président de la République de réfléchir sur l'action à mener et donc de revoir, de requalifier son leadership sur ce Congo. On ne peut pas promettre au peuple congolais un gouvernement de cohésion nationale depuis le 23 octobre et se retrouver jusqu'en janvier finissant sans ce gouvernement de cohésion nationale. On plonge le pays dans un trou noir. On a un pays qui est plongé dans le laxisme, dans la léthargie. Un pays qui est soumis aux caprices de l'inertie. Moi, je crois que c'est le moment de briser la glace et de pousser ce Congo et de le booster sur d'autres rails que de rails de rêves chimériques.
Joachim Diane, nous terminons avec vous.
Oui, bon, je voulais dire ceci en ce qui concerne les élections. J'ai entendu ici, notamment notre ami de Mbujimayi, insister sur le fait qu'on ne doit pas avoir un Sénat de 10 ans, 12 ans. Mais On oublie une chose. On ne doit pas avoir un pays, une démocratie à deux vitesses. Au sommet, il y a les élections et à la base, ce sont des nominations. Mais nous allons toujours continuer à avoir les bourgmestres et tout ça nommés. C'est aussi un problème. On doit le résoudre. Il n'y a pas que le problème des sénateurs. On s'accroche aux sénateurs. Mais on doit aussi résoudre le problème de ces gens qui sont à la base, qui sont nommés.
Je vous remercie, Joachim Diana. Et c'est avec vous que nous terminons cette émission. La partie technique était assurée par Jean-Noël Mokondo. Kéline Kout était à la réalisation. Samuel Kachak vous l'a présenté sous la supervision de Julien Nyamouini. Rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.